bonjour. Donc, je suis ravi de pouvoir vous parler de ces dernières découvertes sur les observations de l'univers et des galaxies dans le domaine millimétrique, après la présentation qu'a fait Françoise sur la grande question de la réionisation de l'univers et des premières galaxies dans l'univers. L'image que vous pouvez voir ici, je vais vous en dire deux mots tout à l'heure, mais vous voyez un peu comme un grand nuage, un cirrus dans l'espace interstellaire avec plein de petits grumeaux. Et pendant un moment, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que ces grumeaux ? Est-ce que c'est des étoiles qui sont en train de naître ? Ou bien est-ce qu'on est en train de voir des galaxies ? Est-ce que c'est des galaxies proches ? Ou est-ce que c'est des galaxies lointaines ? Est-ce qu'on est en train de voir la formation des galaxies ? Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Et quand on a eu ce genre d'image pour la première fois, on était un peu dans le doute. On connaît tous cette image du Hubble Deep Field. Vous savez que le télescope spatial Hubble va fêter ses 30 ans l'an prochain. C'était une véritable aventure qui a un peu révolutionné notre compréhension de pas mal d'aspects de l'astrophysique, de par sa capacité justement de donner forme à l'univers. Et dans cette petite image de 160 secondes d'arc de côté, il y avait environ 1500 galaxies. Et je n'ai pas calculé, mais je crois qu'il doit y avoir plus d'articles qui ont été faits sur cette image qu'il y a de galaxies dans cette image. Donc on peut voir typiquement 4 milliards de fois plus faible que ce que voit l'œil humain. Et la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est pour la comparer avec le regard qu'on a dans le submillimétrique et dans le millimétrique, parce que dès qu'on dit des grandes longueurs d'onde, eh bien on est tout de suite confronté à une tâche de diffraction qui est très très grande, et ce qui fait que les objets apparaissent comme des tâches, et c'est l'un des grands défis pour essayer de comprendre le millimétrique, que d'arriver à voir au-delà de cette limitation de la résolution angulaire. En plus du fait que ce sont des tâches, les outils qui ont été utilisés pour faire des premières cartes dans le millimétrique, comme cette caméra qui s'appelle SCUBA, qui veut dire le Submillimeter Common User Bolometer Array, a 37 pixels, et quand vous regardez les pixels, en fait, ce sont des petites horns, en anglais, c'est des petites cavités qui sont circulaires, et donc vous comprenez bien que entre les pixels, il y a des trous. Donc si vous voulez faire une image continue, vous devez déplacer votre caméra, remplir les trous, et vous avez 37 pixels là-dessus. Donc c'est vraiment... Et le télescope sur lequel était positionnée cette caméra, et maintenant il y a une deuxième génération de cette caméra, ça s'appelle James Clerk Maxwell Telescope, ici à Hawaï, qui fait 15 mètres de diamètre. Hein. Donc 2,50 mètres ici, mais dans l'espace et dans le visible, ici 15 mètres. Et voilà l'image. Donc l'image que je mets ici en superposition obtenue par, dans le submillimétrique, c'est ça en comparaison avec celle que vous venez de voir avant. Et donc vous voyez très bien qu'ici, on n'est pas avec 1500 galaxies, avec des formes pour lesquelles on peut regarder si les galaxies sont en interaction ou pas, si c'est des galaxies spirales ou elliptiques ou autres. C'est des blobs. Donc on rentre dans l'astrophysique des blobs, et ici, c'est une astrophysique à 7 blobs. Donc, et l'article qui a publié ça en 1998 a raconter l'histoire cosmique de la formation d'étoiles et des galaxies dans l'univers avec cette blob. Donc, c'est un défi, mais il y a eu, comme vous allez voir, des avancées, mais la limitation qui vient de la longueur d'onde est imparable. On a quand même un 15 mètres. La galaxie la plus... Enfin, le blob le plus brillant de cette image s'appelle HDF, comme Hubble Deep Field, 850.1. Et la raison pour laquelle je vous en parle maintenant, alors qu'elle a été publiée en 1998, vous allez me dire, mais comment vous pouvez nous parler des dernières découvertes sur le submillimétrique et le millimétrique en nous montrant une image qui date de 1998 ? Eh bien, la raison, c'est qu'il a fallu 14 ans pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce blob. 14 ans. En utilisant tous les télescopes de la planète. Donc, à l'époque, je suis retourné dans l'article original et l'auteur disait « La galaxie ne peut pas être un décalage spectral plus petit que 2,5 parce que sinon on l'aurait vu dans l'autre couleur qui est à 450 microns, donc à 0,45 mm, et la galaxie n'est pas vue alors qu'elle est ici très brillante dans cette image. » Mais elle peut être entre 2,5 et 9. Et ça, en astrophysique, quand quelqu'un vous dit c'est entre 2,5 et 9, ça veut vraiment dire qu'il n'a aucune idée de la distance de la galaxie, parce que là, c'est vraiment hautement incertain. Et c'est en 2012 que l'équipe de Fabian Walter et Tal, j'avais la chance d'être un des collaborateurs, mais c'est vraiment Fabian Walter qui a mené ça de front, a utilisé cette fois 7 antennes de 15 mètres, pas une seule, 7, en interférométrie, Donc en combinant tous ces télescopes ensemble, l'interféromètre du plateau de Bure, de l'IRAM, pour obtenir une tâche de diffraction, donc le blob fait maintenant 2,3 secondes d'arc au lieu de 14,7, et puis surtout pour voir les vibrations des molécules de monoxyde de carbone qui... Alors, c'est quand même assez extraordinaire, parce que c'est ce que vous voyez ici, moi-même, je me le dis régulièrement, c'est quand même trois transitions d'agitation d'une molécule qu'on voit depuis une galaxie qui a rayonné ces oscillations 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc là, on a pu mesurer le décalage vers le rouge de cette galaxie, et c'est 5,2. Donc c'est une galaxie ultra lointaine qui a un décalage de 5,2 à la masse de la Voie lactée, donc c'est-à-dire une galaxie complètement mûre, mature, adulte, à un régime de 5,2, alors que l'univers n'avait que 1 milliard d'années. Donc déjà, à elle seule, c'est un défi. Comment l'univers a-t-il pu générer autant d'étoiles pour faire cette galaxie-là? Et cette petite image-là est quelque part aussi révolutionnaire que la précédente avec les 1500 galaxies de Hubble, parce que si vous faites la somme de toutes les étoiles qui sont nées dans les galaxies qui sont vues par les télescopes Hubble et qui sont vues par centaines, vous en faites moins que dans cette galaxie. Donc, alors vous allez me dire, c'est de la statistique à un objet, donc c'est un peu compliqué, mais progressivement, on en a trouvé d'autres. Et donc là, on est en train de voir la naissance des monstres dans l'univers qui sont des galaxies qui sont très massives, qui ont formé leurs étoiles de façon fulgurante. Ici, on voit... c'est typiquement 200 fois plus que dans la Voie lactée, c'est-à-dire 850 masses solaires par an. Donc c'est vraiment un monstre. La position de cette galaxie sur l'image télescope Hubble en trois couleurs ici, ou bien ici en une seule couleur, c'est, dans les deux cas, c'est l'image Hubble. Vous voyez, ce sont ses contours. Et on a suffisamment de précision avec l'interféromètre pour savoir que ce n'est vraiment pas celle-ci ou celle-ci, mais c'est un objet qui est entre les deux où il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien. Donc elle est positionnée ici, là, et vous voyez, c'est cet objet-là. Alors pourquoi on peut, dans le millimétrique, identifier de façon aussi efficace une galaxie qui est totalement invisible dans l'image télescope Hubble? Et il y a pour ça deux raisons. La première raison, c'est que cette galaxie a beaucoup de poussière d'étoiles qui va absorber la lumière ultraviolette des étoiles et qui va être rayonnée dans l'infrarouge, et dans le millimétrique, et ça, je vais revenir sur cet aspect. Et la deuxième raison, c'est une raison un peu plus technique, c'est le fait que le décalage vers le rouge, qui a tendance à... donc, plus une galaxie est lointaine, moins on reçoit de flux lumineux de cette galaxie, et plus ce flux est décalé vers le rouge. Mais dans le cas du millimétrique, eh bien, ça joue en votre faveur. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez autour de 1 millimètre, vous regardez une région où la lumière qui est émise par une galaxie est très faible. Et quand vous allez décaler vers le rouge le spectre de la galaxie, ce qui va rentrer dans votre fenêtre à 1 mm, ça va être des régions et une émission, une source d'énergie plus puissante. C'est-à-dire que vous allez passer de 1 mm observé à des longueurs d'onde dans le référentiel de la galaxie, au repos, qui sont de plus en plus petites jusqu'à atteindre le pic, le maximum d'émission d'une galaxie. Et alors, la conséquence de ça, c'est ce qu'on appelle une correction K négative. C'est, si vous regardez ce diagramme-là, regardez juste la zone bleue, ici. Et qu'est-ce que vous avez sur l'axe des Y, ici? Vous avez la luminosité de la galaxie, la puissance lumineuse, la quantité de watts qu'elle rayonne, cette galaxie, donc le nombre de joules par seconde. Et puis, ici, vous avez le décalage vers le rouge. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, je disais entre 2,5 et 9, le 9 n'est même pas représenté ici. Mais vous voyez qu'à partir d'un décalage vers le rouge d'environ 1, la zone bleue est plate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez obtenir un flux, donc que votre télescope reçoive un certain nombre de photons par unité de surface du télescope, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir détecter quelque chose qui est, par exemple, de 1 millijansky. Donc, 1 millijansky, c'est 10 puissance moins 29 watts par mètre carré par stéradian. Pourquoi ? Parce que c'est des watts qui vous arrivent par unité de surface de votre télescope par mètre carré et par stéradian, parce que c'est l'angle solide. Plus vous couvrez un angle solide du ciel, voilà, c'est le par stéradian, c'est l'angle solide du ciel. Et par mètre carré, c'est la surface du télescope. Oubliez ça. Tout ce que je veux dire ici, c'est que quel que soit le décalage vers le rouge de la galaxie, À partir du moment où elle a cette luminosité-là, de 7 10 puissance 11 luminosité solaire, eh bien, elle apparaîtra avec la même brillance sur votre télescope. En d'autres termes, une galaxie qui est à un décalage vers le rouge de 1, 3, 5 ou 8 aura exactement la même brillance sur votre télescope. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le visible. Dans le visible, plus une galaxie est lointaine, plus elle est faible. Donc cet effet-là est fantastique. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir voir des objets très lointains avec une efficacité très forte, mais à condition, bien sûr, d'atteindre le seuil de détection du détecteur. Alors, une autre façon de voir ça, c'est de prendre le flux, c'est-à-dire ce que vous recevez sur votre télescope, et puis, en fonction du décalage vers le rouge, et toutes ces couleurs, toutes ces courbes-là, vous montrent le comportement de la lumière d'une galaxie en fonction du redshift selon la longueur d'onde. Donc si, par exemple, je regarde la courbe noire qui est ici, et qui illustre le visible, eh bien, vous voyez que plus je m'éloigne, plus je vais vers la droite, plus je m'éloigne et plus le flux diminue, ce qui est normal. Plus un objet est loin, plus il est faible. Mais maintenant, je vais regarder la courbe violette qui est ici, qui est à 850 microns. Eh bien, vous allez voir que à partir du moment où plus je m'éloigne et plus la galaxie devient même un peu plus brillante. Elle est quasiment au même flux, quel que soit le décalage. Donc on n'a pas du tout cet effet-là. Donc cet effet-là commence autour de 500-850 microns et avant, aux plus petites longueurs d'onde, ça chute. Donc c'est pourquoi on parle du domaine millimétrique comme étant un domaine un peu favorisé pour étudier l'univers lointain avec la condition que ces galaxies soient poussiéreuses. Donc on a découvert cette galaxie-là, qui est un monstre, une galaxie comme la Voie lactée, et on peut se demander, est-ce que ce genre de galaxie naît n'importe où dans l'univers? Et bien entendu, non. Et très vite, dès le papier de 98, il a été constaté que lorsqu'on regarde le contour ici du Hubble Deep Field, qui est la région avec les 1500 galaxies, et si on prend maintenant une région un peu plus grande qui a été faite toujours avec le Hubble Space Telescope, qui s'appelle GOODS pour Great Observatory Deep Survey, dans la région du Nord, vers la direction de la Grande Ourse, voyez un certain nombre de points rouges ici. Et tous ces points rouges, ce sont des galaxies qui ont le même décalage vers le rouge que cette galaxie-là. Elles ont toutes le même décalage vers le rouge. En d'autres termes, cette galaxie qui est très brillante dans l'infrarouge, dans le millimétrique, qui est une galaxie très massive dans l'univers très lointain, elle n'est pas née au hasard. Elle est née dans un endroit privilégié, qui est un proto-amas de galaxies, qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un amas de galaxies, avec 1000 galaxies qui sont toutes regroupées et soudées par la gravité, découplées de l'expansion de l'univers. On est donc en train, grâce à une seule galaxie, non seulement de voir une galaxie lointaine, mais d'avoir un outil pour identifier dans l'univers lointain la naissance d'une grande structure de l'univers. Or, les grandes structures de l'univers que sont les amas de galaxies, ce sont les plus grandes structures soudées par la gravité, et qui sont donc un test, un outil, un laboratoire pour tester nos théories de la gravité, de la formation des grandes structures de l'univers, uniques. Parce que si vous pouvez voir à quel moment la gravité agit sur des échelles très grandes, eh bien, vous pouvez savoir si vos théories sont validées ou pas, parce que vous avez une grande dynamique en temps entre aujourd'hui et cette époque-là pour voir comment ça a pu évoluer. Et c'est très très difficile de trouver des amas de galaxies ou des proto-amas de galaxies dans l'univers très lointain. Et là, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est vous voyez ce proto-amas de galaxies en formation, bien sûr. Alors là, on n'a pas mini-galaxies, hein, on n'en a que 13, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans l'univers. Vous ne pouvez pas trouver ça facilement. Alors, d'une certaine manière, vous allez me dire, comment se fait-il que, en prenant une si petite image du ciel, on est tombé dessus? Tout simplement parce qu'il y en a plein, des choses comme ça, mais celle-ci est à un redshift de 5.2. Si vous aviez pointé ailleurs, vous en auriez trouvé un à 2.4 ou autre. Donc là, on a quand même eu de la chance. C'est-à-dire qu'un proto-amas à redshift de 5.2, c'est extrêmement rare. Donc quelque part, il y a eu un petit coup de peau quand même derrière. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, donc, vous voyez ici le pic, le nombre de galaxies avec un décalage spectral qui est le même que celui qu'on a de la galaxie à redshift 5.2. Vous voyez ici la représentation de toutes ces galaxies-là. Comment ces distances ont été mesurées? Elles ont été mesurées par la Rayleigh-Mann alpha dont a parlé Françoise tout à l'heure, qui est à 1216 angstroms et qui va arriver à 7500 angstroms, donc 0,75 micromètres dans le télescope, dans le référentiel de la Terre. Et puis, vous pouvez constater que cette raie, elle a une pente qui est un peu douce à droite et très forte à gauche. Donc, ça vient du fait que les nuages d'hydrogène et de proto-galaxies qui sont en train de naître, qui sont entre la galaxie et nous, absorbent une partie de la lumière, ici, et casse complètement la partie de gauche de la Reliman alpha. Vous voyez ici, cette galaxie est proche, la Reliman alpha n'est pas du tout affectée. Ici, cette raie de recombinaison de l'électron sur l'hydrogène vers le niveau fondamental de l'électron dans l'hydrogène, elle va être très absorbée pour cette galaxie qui est plus lointaine, à un redshift de 3.6. Donc, non seulement vous savez que cette galaxie est née dans une protostructure, vous regardez les galaxies autour et vous pouvez voir, de par la forme de l'arrêt, qu'il y a plein de proto-galaxies, de galaxies naissantes faites de... Pourquoi proto-galaxies ? Parce que ce sont des nuages de gaz, essentiellement de gaz, donc d'hydrogène. Donc elles n'ont pas encore formé toutes leurs étoiles qui sont sur la ligne de visée, que vous pouvez étudier. Alors, je reviens sur cette technique. La technique qui est utilisée pour mesurer les décalages vers le rouge des galaxies, dont a parlé François, j'en redis deux mots, c'est que non seulement on peut identifier cette raie, mais on peut aussi identifier cette marge d'escalier qui est ici. Ici, pour une galaxie, un décalage de 7,5. Vous voyez plusieurs filtres du télescope spatial Hubble à différentes longueurs d'onde. Et puis, vous voyez ici qu'il n'y a rien, et ici, il y a quelque chose, simplement parce que quand on est à gauche de cette raie Lyman alpha, non seulement la raie peut être cassée et puis être affectée, mais tout ce qui est à gauche, en dessous de 1000 angstrom typiquement, qui devrait rayonner du fait de l'émission des étoiles, est absorbé par l'hydrogène qui est entre dans la ligne de visée entre nous et les étoiles, et c'est ce qui fait cette marge d'escalier, cette discontinuité de Lyman, qui explique pourquoi dans des images on voit la galaxie à droite et pas à gauche. Alors ça, c'est très utile parce que les raies Lyman alpha dont je vous ai parlé tout à l'heure sont difficiles à identifier parce qu'il faut faire de la spectroscopie, tandis que là, avec de simples images, vous pouvez faire une grande région du ciel, vous posez longtemps et vous allez voir que des galaxies disparaissent à certaines couleurs et apparaissent à d'autres. Et donc, si vous voyez que ça se passe ici à peu près, ben vous savez que le décalage vers le rouge est de 7. Vous voyez ici une animation qui vous montre comment ça se déplace à mesure que la galaxie est lointaine. Elle disparaît de certaines bandes et reste dans d'autres bandes. Donc ça, c'est la technique qu'on utilise pour voir les galaxies dans l'univers lointain. Sauf qu'il y a un hic. C'est que dans cette technique-là, eh bien, vous vous reposez sur l'hypothèse que vous allez avoir de l'émission à droite. Vous allez avoir une absorption à gauche, mais vous attendez à ce qu'il y ait d'émission à droite. Or, à droite, on est dans l'ultraviolet. Et l'ultraviolet est une longueur d'onde qui est très efficacement absorbée par la poussière d'étoiles. Et donc, pour la galaxie que je vous ai présentée tout à l'heure, HDF 850.1, il n'y a aucune chance que vous voyez rien à gauche et quelque chose à droite. Vous verrez rien à gauche et rien à droite. Parce que tout est absorbé, ici par l'hydrogène, ici par la poussière d'étoiles. Et donc, la technique qui a été utilisée et qui est utilisée classiquement pour identifier les structures dans l'univers lointain et galaxies lointaines est biaisée dans l'ultraviolet parce qu'elle cherche cette discontinuité-là. Et l'histoire de l'observation des galaxies en millimétrique, c'est une histoire qui consiste à rééquilibrer les choses parce qu'avec cette technique-là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on était en train d'observer les plus petites galaxies, les galaxies qui sont les plus nombreuses, qui souffrent le moins d'atténuation par la poussière, et qu'on ratait la naissance des galaxies les plus massives, qui sont celles qui vous permettent de voir où naissent les amas de galaxies et les proto-amas de galaxies. En d'autres termes, on rate une phase majeure de la formation des galaxies, et qui a été dévoilée, et qui est la mieux étudiée, par le domaine millimétrique, d'où l'intérêt du millimétrique. Donc, je vous rappelle qu'une galaxie est constituée d'étoiles, de gaz diffus, de molécules, de grains de poussière et de matière noire, avec les proportions qui sont données ici. Les parties les plus atténuées de la galaxie que vous pouvez voir ici sont en réalité les parties les plus denses où vont naître les étoiles. Et j'aime bien citer cet exemple-là. Vous voyez, quand on voit des nuages interstellaires dans notre galaxie, ou encore celle-ci, ce S ici avait été identifié par le premier astrophotographe qui s'appelle Ed Barnard. Et dans son article dans The Astrophysical Journal, quand il a publié, il a identifié plusieurs de ces constellations sombres, il a dit « Personne ne peut supposer un instant que ce genre de traces soit autre chose qu'un vide entre les étoiles. » Et le directeur de rédaction ou l'éditeur en chef du journal a accepté l'article, mais a mis une note en avant où il a dit « Bien entendu, ce que dit l'auteur est totalement faux. Parce que si c'était vrai, eh bien, prenez ce S ici, si c'était vraiment un trou dans la galaxie, comme il n'y a pas d'étoile que vous voyez ni devant ni derrière, ça serait un tube en S pointé sur nous. Donc ça voudrait dire que Superman a laissé un S en forme de tube pointé sur nous et que chacun de ces zones d'ombre ici serait en réalité les étoiles qui sont derrière, vous ne les voyez pas, ça voudrait dire qu'il n'y en a pas si c'était un trou. Et lui, il a dit non, si on ne voit pas d'étoiles derrière ça, c'est parce que c'est une région au contraire ultra dense et c'est de la poussière d'étoiles. Et effectivement, quand on regarde cette image dans le visible et qu'on passe progressivement dans l'infrarouge lointain et le millimétrique, eh bien, on voit que la partie la plus noire devient la partie la plus dense où vont naître les étoiles. Donc cet aspect de la voie lactée dans laquelle naissent les étoiles les plus massives, je rappelle qu'une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil va faire 6000 fois autant de lumière que le Soleil, donc ce sont celles qui vont faire la plus grande quantité de lumière, va vivre 10 millions d'années, donc c'est celles qui nous permettent d'accéder à des échelles de temps courtes, donc à la formation d'étoiles. Si vous voyez une étoile qui vit 10 millions d'années, c'est qu'elle est née il y a moins de 10 millions d'années. Sinon, elle aurait déjà explosé en supernova. Donc, en étudiant les étoiles massives, vous pouvez voir les étoiles qui viennent de naître. Or, ces étoiles-là sont inaccessibles parce qu'elles sont dans des cocons de poussière qui absorbent leur lumière, parce que la poussière accompagne toujours ces régions de formation d'étoiles. Et donc, si vous voulez les voir, il faut regarder le rayonnement de la poussière elle-même. Alors, une image qui est assez troublante, c'est le fait que les Indiens des Andes avaient identifié ces constellations sombres, comme ici la nébuleuse de la Pipe, et pour eux, ils associaient plus d'importance aux constellations sombres dans l'hémisphère sud, parce qu'on voit bien le centre galactique dans l'hémisphère sud, qu'aux constellations d'étoiles. Et ils avaient une légende selon laquelle le renard voulait... Donc vous avez ici un renard... Et bon, c'est un peu difficile de les voir, mais je passe un peu vite. Mais si vous regardez ici, vous voyez ici qu'il y a une patte. Là, il y a deux pattes. Là, il y a une patte. On voit la tête du lama. Bon, si vous n'avez pas l'habitude de vivre dans les Andes, vous ne pouvez pas voir, hein, bien sûr. Mais croyez-moi, c'est un lama. Et puis ici, c'est une vigogne. Et puis ici, c'est un renard qui veut les manger. Et donc, il y a toute une légende comme quoi, le jour où la queue du renard sera trempée dans l'eau, eh bien, il se passera quelque chose. Et c'est le moment où la voie lactée est orientée de sorte à ce que la queue du renard tombe sous l'horizon. Et c'est le moment où les Espagnols ont envahi... Il y a eu une conjonction de planètes. Et en même temps, ça, au moment où les Espagnols ont envahi le Chili, et il y a un anthropologue qui pense que ça a pu jouer un rôle dans le fait qu'il se soit laissé faire, le fait qu'il se soit dit, ben, finalement, le ciel nous avait prévenu et maintenant, c'est en train d'arriver. Alors, au-delà de ça, ce qu'il disait, c'était que ces régions sombres, c'était les lieux de passage entre les vivants et les morts, entre la poussière... Et finalement, nous, on sait que c'est le lieu de la poussière d'étoiles faite des étoiles précédentes et où naissent les nouvelles générations d'étoiles. Donc, c'est ça qui va s'appliquer maintenant à l'échelle d'une galaxie tout entière, le fait que la lumière ultraviolette d'une galaxie soit absorbée par la poussière, chauffée, rayonnée dans l'infrarouge. Quand on dit chauffée, c'est à quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 240 degrés. Mais pour nous, c'est chauffé, puisque dans l'univers, il fait 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et maintenant, l'image dans l'infrarouge de cette galaxie-là, vous voyez que le négatif, non plus d'une région de la Voie lactée, mais de toute la galaxie, ce sont toutes ces régions de formation d'étoiles qui sont ici. Donc, c'est ça qu'on va voir dans le millimétrique. Ce sont les régions de formation d'étoiles des galaxies, et c'est des galaxies qui vont dévoiler des flambées d'étoiles, de la formation d'étoiles massive, et qui ont nécessairement beaucoup de poussière. Or, pour avoir de la poussière, il faut avoir fait beaucoup d'étoiles. Et une chose qu'on a constatée récemment, c'est que lorsqu'une petite galaxie forme des étoiles, ses atomes, ses noyaux d'atomes, carbone, oxygène, azote, silicium, fer, qui sont formés dans les étoiles et sont libérés dans le milieu interstellaire, sont libérés sous la forme, avec des supernovées qui vont engendrer des vents galactiques et qui vont vider les galaxies de leurs éléments lourds. Et donc les petites galaxies ont du mal à garder beaucoup de poussière à l'intérieur parce que les vents galactiques les vident de ces éléments lourds. Mais les grosses galaxies, les galaxies massives, celles qui vont donner naissance à des galaxies comme la Voie lactée, elles ont un puits gravitationnel tellement profond que les éléments lourds ne partent pas. Et donc, la poussière se forme dans ces galaxies-là, et ces galaxies sont très poussiéreuses. Donc, le millimétrique, c'est le lieu où on étudie les galaxies les plus massives, parce qu'elles gardent leurs métaux et gardent leur poussière, qui sont les lieux de formation des proto-amas de galaxies, et qui, grâce à la correction K, peuvent être observées jusqu'à très loin dans l'univers. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, Appliquons ça maintenant. Donc, on a l'ultraviolet qui est absorbé par la poussière interstellaire et qui va rayonner dans l'infrarouge lointain. C'est le rayon de la poussière chauffée à typiquement 30 degrés au-dessus du zéro absolu. Et cette émission-là, eh bien, c'est elle qu'on va voir dans l'infrarouge lointain, ici, autour de 100 microns, dans le millimétrique, ici, qui est la, ce qu'on appelle la queue de Rayleigh-Jeans. Et puis, lorsque le décalage vers le rouge, si cette galaxie-là est placée à un décalage vers le rouge de 5, comme tout à l'heure, ben, le pic va être décalé vers la droite et va rentrer dans le domaine millimétrique. Bien sûr, du fait que l'atmosphère absorbe la plupart de l'infrarouge lointain, il est très difficile de voir cette partie-là des galaxies depuis le sol. Donc on a besoin pour ça d'un satellite, c'est ce qu'on avait fait avec le satellite Herschel, pour voir cette partie-là. Ici, vous avez la partie, le taux d'absorption du rayonnement qui vient du cosmos par l'atmosphère, et il est très très fort ici. Et puis l'opacité atmosphérique. Et puis quand vous allez aux grandes longueurs d'onde, donc quand vous rentrez dans le millimétrique et puis dans les ondes radio, là vous redevenez transparent. C'est pourquoi les télescopes au sol peuvent regarder dans le millimétrique et ont beaucoup de mal pour regarder autour de 100 micromètres. Alors il y a une histoire de l'observation spatiale de l'infrarouge lointain au submillimétrique. Ce qu'on appelle le submillimétrique, c'est quelques centaines de microns qu'on fait rentrer dans le domaine des galaxies millimétriques parce que c'est finalement les mêmes objets qu'on étudie, en passant d'un télescope de 57 cm américain de la NASA, puis 60 cm européen. Donc en 10 ans, on a gagné 3 cm, vous allez me dire, mais bon, les détecteurs étaient plus sensibles. À chaque fois, je vous ai mis la tâche de diffraction à côté. Puis un américain, vous voyez la compétition, NASA-ESA, NASA-ESA. Et puis là, le plus grand télescope du monde jamais envoyé dans l'espace, 3,50 m, Herschel, avec la tâche de diffraction qui est montrée ici. Donc si je prends une galaxie, l'image de cette galaxie-là avec IRAS, c'était un blob. Avec Herschel, c'est devenu une galaxie avec des bras spiraux. Donc on a maintenant ce blob que vous voyez ici, à 100 micromètres dans l'espace, qui est devenu une galaxie. Mais si maintenant vous prenez le rayonnement, ici on est à 100 micromètres, si vous regardez à 1 mm ou autour de ça, même si vous regardez à 500 micromètres, ben Herschel aussi commence à avoir des blobs. Alors, voilà l'image multicouleur de la galaxie, et en étudiant ces couleurs, on peut voir quelle est la température de la poussière dans les bras spiraux de la galaxie, et étudier un peu la formation d'étoiles dans cette galaxie. Donc maintenant que j'ai introduit ce concept-là, je reviens avec mon nuage interstellaire, mon cirrus interstellaire de tout à l'heure, pour décrire cette petite zone ici. Vous voyez ici de la turbulence dans le milieu interstellaire qui régule la formation d'étoiles dans la galaxie. Cette turbulence qui explique pourquoi la formation d'étoiles n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'imaginer avec la densité de matière qu'il y a dans une galaxie. C'est la turbulence qui empêche la formation d'étoiles. Et puis, en bout de chaîne turbulente, là où la compression se fait, forme des étoiles. Et puis, si on va dans la région la plus vide ici, on zoome, on commence à voir les grumeaux dont je vous parlais tout à l'heure, et vraiment, mes collègues se sont demandés, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Est-ce que c'est des étoiles ? Est-ce que c'est des galaxies ? Et puis, quand on zoome un peu plus, on voit maintenant, avec le satellite Herschel en trois couleurs, que chacun de ces blobs ici, eh bien, c'est une galaxie. Donc maintenant, on est arrivé à une situation où, en 98, dans une image comme ça, on avait sept blobs, et on a mis 14 ans pour identifier le plus brillant d'entre eux, quelle était sa distance. Et puis maintenant, on a dans l'infrarouge lointain, et vous allez voir aussi dans le millimétrique, des cartes avec avec des nombres de galaxies et une précision qui commencent à s'approcher de ce qu'on voit dans le visible. Donc c'est une révolution. On a des centaines d'objets. Et on peut commencer à étudier leurs propriétés globales, par exemple, de les situer à différentes époques de l'histoire de l'univers pour essayer de remonter l'histoire des blobs, l'histoire de la formation d'étoiles enfouie dans la poussière d'étoiles. Donc si je prends par exemple ici, ce petit truc rouge ici, qui est une source d'émission à 500 microns, donc qui est dans le début du submillimétrique, et ça, ça ressemble à une patte de léopard, et c'est l'image qu'on voit avec le télescope Hubble. C'est une galaxie, un décalage de 4, qui forme 2000 masses solaires par an, donc encore plus, 2,5 fois plus que celle de tout à l'heure, et c'est-à-dire qu'elle forme une étoile toutes les 4 heures. Donc là, c'est vraiment un monstre et qui a été identifié. Avec ces objets-là, on peut remonter l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers. Alors, la révolution qui s'est produite depuis quelques années, ça a été d'utiliser non plus 7 antennes du plateau de Bure, mais 50 antennes de 12 mètres du Atacama Large Millimeter Array, ALMA, et qui a permis cette fois d'avoir une vision plus fine des galaxies, un peu comme on l'avait fait avec le télescope spatial Hubble, mais cette fois dans le millimétrique. Non seulement on va pouvoir identifier un grand nombre de galaxies, comme on l'a fait avec Herschel, mais cette fois on va commencer à voir la forme des galaxies. On va pouvoir voir les détails des galaxies, ce qui se passe à l'intérieur des galaxies, leurs entrailles, dans le domaine où les tâches de diffraction sont énormes. Alors bien sûr, pour ça, il faut un kilomètre de terrain avec 50 antennes, etc. Mais on arrive à faire ça, et on va pouvoir voir ce qu'on appelle la terra incognita, c'est-à-dire que s'est-il passé au cours des 3 premiers milliards d'années d'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers. Donc c'est un diagramme qu'on utilise beaucoup et que je résume pour vous, qui vous donne, en fonction du temps, l'efficacité avec laquelle le taux de formation d'étoiles dans l'univers. Donc si vous prenez une boîte qui est dessinée en rouge ici, de 3 millions d'années-lumière de côté, et vous avez un certain nombre de galaxies dedans, mais vous ne vous préoccupez pas de leur forme et ni du nombre de galaxies qui est dans cette boîte. Vous regardez un volume de l'univers. La seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir si j'attends un an, 10 ans, 100 ans, combien d'étoiles vont naître. Et ce nombre d'étoiles qui naît par année, dans une boîte comme ça, alors pourquoi 3 millions? Parce que c'est 3 mégaparsecs, un parsec c'est 3,26 années-lumière. Et donc vous avez ici le rythme de formation d'étoiles des galaxies. Et ce que vous voyez, c'est que quand je remonte dans le passé, la boîte est plus petite. Alors pourquoi? Parce que l'univers était plus concentré dans le passé, donc la boîte doit suivre l'expansion de l'univers. C'est ce qu'on appelle une boîte comobile. Elle bouge avec l'univers. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait aucune évolution, si toutes les galaxies formaient le même nombre d'étoiles par an, et s'il y avait toujours eu le même nombre de galaxies, bien si la boîte suit l'expansion de l'univers, vous verrez bien qu'il n'y a pas d'évolution. Par contre, si vous gardez toujours une grande boîte à une époque où l'univers était plus concentré, dans cette même boîte-là, au lieu d'avoir 7 galaxies, vous en auriez 70. Et ça ne serait pas juste. Parce que vous diriez, dans l'univers d'avant, il y avait 70 galaxies, il y avait 10 fois plus de galaxies. En réalité, non, il n'y en avait pas plus, c'est juste que l'univers s'est étendu, la distance entre les galaxies a varié. Donc vous suivez ça. Et donc vous comptez là-dedans. Et c'est ce que représente ce diagramme ici. C'est-à-dire que vous avez ici le décalage vers le rouge, donc le Big Bang est par là, aujourd'hui c'est le zéro, et puis aujourd'hui vous avez le rythme en logarithme, c'est un logarithme ici, du nombre de masses solaires par an et par boîte. Vous voyez que c'était beaucoup plus élevé il y a environ 8-10 milliards d'années, et puis probablement beaucoup plus faible avant. Mais je n'ai représenté ici qu'un certain nombre de points, ceux qui ont été vus dans le millimétrique et l'infrarouge. On a d'autres points qui ont été vus ici dans l'ultraviolet, qui ont permis de dessiner cette courbe ici, mais ces points-là sont totalement biaisés par les galaxies qui ne subissent pas l'atténuation par la poussière. Et donc, dans cet article-là, il y a toute une discussion de ce qui s'est passé à cette époque-là, mais en réalité, elle est très incertaine parce qu'on n'a pas de mesure directe de cette zone inconnue avec le millimétrique dans l'étude qu'ils ont présentée. Avec ALMA, on commence à pouvoir plonger dans cette époque-là. Donc ça, ce que vous voyez en bleu ici, c'est le dessin de la région Goods que je vous avais montré tout à l'heure. Alors celle-là est dans le sud, dans l'hémisphère sud. Il y en a une dans le nord et dans l'hémisphère sud. Celle du nord, elle contient le Hubble Deep Field. Celle du sud, elle contient le Hubble Ultra Deep Field. Et puis un Hubble Extreme Deep Field. Bon, à chaque fois plus profond. Donc le petit champ ici, qui est très profond du Hubble, est en jaune. Et en rouge, vous avez la région qu'on a couverte. Donc une équipe française est responsable de ça, c'est notre équipe, avec ALMA, c'est le plus grand sondage du ciel avec un interféromètre aussi fin que ça qui permet d'aller étudier l'univers lointain. Et ce qu'on a pu voir avec ça, c'est qu'il y avait beaucoup de galaxies très lointaines qu'on n'avait pas identifiées. Donc ici, vous voyez en jaune le nombre de galaxies en fonction de leur décalage vers le rouge qui sont vues dans cette petite région très petite. Mais si vous regardez maintenant dans la région rouge, vous voyez que l'histogramme est décalé vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le phénomène de correction négative dont je vous parlais tout à l'heure fait que les objets les plus lointains ne sont pas les objets les plus faibles. Donc, nos collègues anglais ici ont utilisé ALMA avec la vision de l'optique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, prenons la région la plus petite, regardons le plus longtemps pour aller voir les objets les plus faibles, ça sera les plus lointains, et remontant jusqu'à l'époque de la réionisation. Et ils n'ont rien vu au-delà de, typiquement, un décalage de 2, 2,5, ils ont peut-être une galaxie au-delà. Ils ont complètement raté leur exercice, et à la fin, Jim Dunlop a dit dans une conférence d'ailleurs, je crois qu'ALMA, ça sert à rien. Il a tout de suite conclu ça. Et au lieu de conclure, je crois que je me suis trompé de méthode pour utiliser ALMA. Et donc, bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, un objet qui est si puissant dans sa résolution angulaire, qui va être utilisé pour regarder des régions grandes. Il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Mais vous voyez que l'image qu'on a faite sur ce carré rouge, je vous le dis, on ne voit pas là, mais est beaucoup plus faible que celle-ci. Elle est beaucoup, beaucoup plus faible. On voit des objets beaucoup plus brillants, on ne voit pas des objets aussi faibles que cette image-là. Et pourtant, les objets sont systématiquement plus lointains, grâce à cette correction K, et grâce au fait que les galaxies massives, qui sont celles qui gardent leur poussière interstellaire, parce qu'elles ont un puits gravitationnel important, ces galaxies massives, eh bien, elles sont à l'endroit où vont naître les proto-amas de galaxies. Or, si vous regardez autour de vous, des amas de galaxies, il y en a, mais seuls 10% des galaxies dans l'univers proche sont situées dans des amas de galaxies. Ce ne sont pas la majorité des galaxies. Donc, si vous voulez trouver des galaxies massives qui vont être dans des lieux privilégiés, qui seront des proto-amas de galaxies, qui seront dans ces endroits qui vont être 10% de l'univers local, bien, il faut couvrir une vaste région du ciel si vous voulez les trouver. Il se trouve que dans la région qu'il a regardée, lui, il y en a zéro. Pas de peau. Il n'avait qu'à pas voter pour le Brexit. Mais non, mais il est écossais, il n'a pas voté pour le Brexit. Alors, dans cette image que vous voyez avec ALMA, vous avez les contours ici à 1 mm, et vous voyez que la plupart du temps, les contours à 1 mm correspondent bien à des galaxies, mais si je zoome sur celui-là, il y a un contour ici, une galaxie, et même si on augmente le contraste au maximum, il n'y a strictement rien dans l'image du télescope spatial Hubble. Donc on a comme ça un certain nombre de galaxies. Typiquement, dans cette image-là, entre 15 et 20% des sources qui sont vues par ALMA n'ont aucune contrepartie dans les images du télescope Hubble, qui sont des images ultra profondes. Vous voyez, ici, c'est ce que voit le télescope spatial Hubble, il n'y a rien. Ici, avec le télescope Spitzer et la caméra qui s'appelle IRAC, qui regardait autour de 4 micromètres, on commence à voir quelque chose. Dans le domaine du millimétrique avec ALMA, on voit quelque chose. Et puis avec Herschel, on ne voyait rien. Alors dans celle-là, celle-ci n'est pas vraiment vue avec le VLA en radio, d'autres sont vues en radio. Donc, on commence à voir maintenant une idée de l'abondance de ces galaxies qu'on appelle des galaxies optiquement noires ou des galaxies HST dark, qui sont noires pour le HST, c'est-à-dire que l'image est complètement noire. On en voit un autre exemple ici, et je vous montre ce cas-là parce que on a donc de nouveau rien au télescope Hubble. Ici, il commençait à y avoir quelque chose ici, et puis en bande à 2 micromètres, on voit quelque chose apparaître. Mais on s'est rendu compte, la croix bleue qui est là et la croix mauve qui est là, je vous le dis parce que si jamais vous allez participer à une de ces équipes qui travaillent sur les catalogues de galaxies, il faut que vous le sachiez. La croix bleue, c'est les gens qui se sont basés sur le télescope Hubble pour faire leur catalogue. Et ils ont dit, j'ai un truc qui est à l'endroit de la croix bleue. Et la croix violette, c'est les gens qui se sont basés sur l'image en infrarouge, ici, pour faire leur catalogue. Et ils ont dit, j'ai un truc qui est à peu près là. Ils ont un peu décalé, parce qu'ils ont vu qu'il y avait ça. Tous ont cru que ça, c'était une seule galaxie, ce truc-là, avec deux régions de galaxies. En réalité, ce qu'on voit avec ALMA, cet objet-là est un objet qui est en réalité très proche de nous, une galaxie très proche, mais ce qu'on voit avec ALMA, ici, c'est seulement ce truc-là, qui est une autre galaxie. Donc on se rend compte que tous nos catalogues de galaxies sont complètement faux, c'est-à-dire les galaxies les plus intéressantes, lointaines, très affectées par la poussière, sont absentes de nos catalogues, même quand elles sont dedans. C'est-à-dire même quand elles sont dans nos images, on les a ratées, parce qu'on s'est dit, ce truc-là, ça doit faire partie de ce même truc, c'est une seule galaxie. Donc on a raté des galaxies. Et ce que vous voyez ici, je suis désolé, c'est un peu petit, c'est qu'on a fait un suivi spectroscopique avec ALMA, pour mesurer l'arrêt du monoxyde de carbone dont je vous parlais tout à l'heure, une des transitions, 6 vers 5. Et ça nous a permis de mesurer le décalage spectral de cette galaxie qui est de 3,5. Et donc 1,7 milliard d'années après le Big Bang. Donc on commence à mesurer les distances de ces galaxies-là. Et donc, on a fait deux découvertes qui sont assez intéressantes à ce sujet-là, sur ces galaxies qui sont optiquement invisibles. La première a été publiée dans un papier dans Nature en juillet dernier, qui a consisté en un suivi une soixantaine de galaxies optiquement noires, donc un nombre non négligeable pour ces objets-là, et pour lesquels on a détecté environ 35 d'entre elles avec le temps de pause qu'on a mis. On a mis 2 minutes de temps de pause seulement avec ALMA. Alors, vous voyez quelques exemples ici. Ça, c'est les blobs ALMA, et puis les petits carrés. Alors, je n'ai pas zoomé dessus parce qu'il n'y a rien dedans, donc ça serait un peu prétentieux de vous montrer que même si je zoome, il n'y a rien. Mais en fait, ça, c'est une image très profonde du télescope spatial Hubble, et vous voyez que dans les petits carrés, il n'y a rien. Et ce qu'on voit avec ALMA, ce sont ces fameuses galaxies massives dans des régions privilégiées de l'univers qui forment des étoiles à des taux élevés. Donc si maintenant je vous montre quelques-unes d'entre elles sur des images profondes du télescope spatial Hubble, avec un cercle là où il y aura quelque chose, mais je vous montre qu'il n'y a vraiment rien pour Hubble. Et puis si maintenant je montre l'image avec ALMA, à l'intérieur de chacun de ces petits cercles, vous avez une tache, vous avez une galaxie qui a été détectée. Alors, quelle a été l'implication de cette observation? Ça nous a permis de nous rendre compte que dans cette terra incognita des 3 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, on avait raté la formation des proto-amas de galaxies et des galaxies les plus massives par un facteur 10. Ce qui est, même pour nous astronomes, beaucoup. Donc, je vous montre à nouveau ma petite histoire de la formation des galaxies. La courbe ici, c'est celle de tout à l'heure, la ligne qui est dessinée par les galaxies vues dans l'ultraviolet. Ce qui a marqué ici, c'est LBG, ça veut dire Lyman Break Galaxies, ça veut dire galaxie à discontinuité de Lyman, c'est la marche d'escalier. Donc ça, c'est l'histoire que vous pouvez tracer avec les galaxies, en particulier pour les 3 premières milliards d'années qui est ici, c'est l'histoire des marches d'escalier. Or, souvenez-vous, les marches d'escalier, c'est une méthode fantastique pour détecter plein de galaxies dans l'univers lointain, mais si la marche haute est affectée par la poussière, vous n'avez plus de marche d'escalier, et donc vous les ratez. Donc si maintenant, je ne regarde pas, donc ici, je vous rappelle, c'est le rythme de formation d'étoiles dans une galaxie, en fonction des cages vers le rouge, et si maintenant, je ne regarde pas uniquement toutes les galaxies, mais je regarde les galaxies massives, celles qui ont environ... quelques 10 puissance 10 masses solaires d'étoiles, donc moins que la Voie lactée, ou plus. Voilà. Donc la contribution des galaxies massives à cette histoire-là des 3 premiers milliards d'années, vous la voyez ici. Ce sont les galaxies massives vues par la méthode de la discontinuité de Lyman. Donc ça, c'est ce que voit le télescope spatial Hubble, ce sont les galaxies massives. Donc c'est une petite fraction de ça, et c'est normal, parce que dans l'univers lointain, il y avait peu de galaxies massives. Donc la contribution des galaxies massives à la formation d'étoiles de l'univers dans une boîte de 3 millions d'années-lumière, dans cette époque lointaine, elle est toute petite. Mais ce qu'a vu ALMA, c'est ça. C'est-à-dire, bien sûr, en dessous de ça, on n'est pas en train de dire que les galaxies massives sont plus nombreuses et forment plus d'étoiles que les petites galaxies. Mais si vous voulez trouver les proto-amas de galaxies, la formation des galaxies massives, le millimétrique devient la clé pour les raisons technique dont je vous ai parlé précédemment, et on en voit ici l'illustration parce qu'il est facile de voir que l'étoile rouge est au bas mot 10 fois au-dessus du cercle bleu. Ici, c'est en log, donc quand vous avez un cran ici, c'est un facteur 10. Et vous voyez ici, là, c'est même un facteur 100. Donc, on a raté la formation des galaxies les plus massives. Le télescope Hubble est extraordinaire, mais voilà, et ALMA le révèle ici. Et ça, c'est très utile pour savoir si nos modèles de formation des galaxies et des grandes structures sont corrects. Parce que imaginez que votre théorie de formation des galaxies avec un puits gravitationnel fait par de la matière noire, dans laquelle tombe la matière classique et qui forme des étoiles, eh bien, colle avec ça, eh bien, ce qu'on voit ici impliquera que votre modèle est faux. Donc on commence à avoir un si grand nombre de galaxies massives et de formations d'étoiles que cette formation des galaxies massives commence à devenir un souci pour nos modèles théoriques. Ça commence à devenir un souci. Et le deuxième aspect dont je vous ai parlé, c'est que ces galaxies-là ne naissent pas n'importe où. Donc de la même manière qu'on a vu tout à l'heure un décalage vers le rouge de 5.2, on avait un proto-amas de galaxies avec la galaxie HDF 850.1. Cette fois, on a un pic analogue à l'autre, mais à 3.5, un redshift de 3.5. Et ce pic-là, il est fait d'un beaucoup plus grand nombre de galaxies. Cette fois, on a plutôt la centaine de galaxies. Et quand on regarde comment se distribue, si on prend cette tranche d'univers, et comment elle se distribue spatialement, et qu'on fait des cartes d'isodensité, et donc ça, c'est le champ global, puis si je zoome là-dessus, je vois ça, eh bien, on voit qu'il y a quatre étoiles ici. Ces quatre étoiles, ce sont quatre des six galaxies optiquement noires qu'il y a dans cette région totale. Et donc, en d'autres termes, la quasi-totalité de ces galaxies noires se trouve dans un même proto-amas de galaxies. Et la plus massive galaxie de tout l'univers dans cette région du ciel, au-delà d'un décalage de 3, c'est cette galaxie qu'on voit avec une étoile rouge, qui est totalement invisible au télescope spatial Hubble. Et cette galaxie-là, elle a la masse de la Voie lactée, même deux fois la masse de la Voie lactée, un redshift de 3,5, et elle est au centre de cette structure-là. Ce qui veut dire que la structure est en train de s'effondrer gravitationnellement pour donner naissance à cette galaxie-là. Donc là, on est vraiment en train de voir un amas de galaxies en train de se former grâce à la partie invisible de l'univers. Cette technique, on l'a aussi utilisée à un décalage vers le rouge un peu moins lointain, et ça nous a permis d'identifier l'amas de galaxies le plus lointain jusqu'à ce jour de l'univers, à un décalage de 2,5. Alors cette fois, ce n'est plus un proto-amas de galaxies. La différence avec l'autre, c'est que cette fois, vous avez ce que vous voyez ici en violet, vous avez un gaz intergalactique chauffé à plusieurs millions de degrés qui rayonne dans les rayons X, qui prouve que la structure est gravitationnellement soudée. Et donc là, on a une structure mûre, comme une galaxie, mais à l'échelle d'un amas de galaxies. Donc cette fois, c'est un amas de galaxies, ce n'est plus un proto-amas de galaxies, à un décalage de 2,5, avec plusieurs sources qui sont en train de former des étoiles, comme on les a vues tout à l'heure, vues par ALMA. Et quelque chose d'assez intéressant, qui n'est pas encore publié, c'est qu'on voit dans cette structure une émission diffuse du gaz Lyman alpha, donc on a parlé tout à l'heure, donc ce gaz Lyman alpha qui permet d'identifier les galaxies lointaines, mais qui est entre les galaxies. Et alors là, c'est un peu troublant, parce que entre les galaxies, à des millions de degrés, le gaz est censé être complètement ionisé, c'est-à-dire que les électrons ont été éjectés des atomes. Et donc, on n'a plus de capacité, normalement, d'avoir l'électron qui retombe au niveau fondamental. Sauf si vous nourrissez en continu cette partie-là. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qui est en train de nourrir un amas de galaxies ? C'est peut-être ce qu'on appelle des filaments cosmiques qui sont en train de nourrir l'amas de galaxies par du gaz frais. Et donc, ça serait peut-être une des plus évidentes traces de gaz frais venu de l'espace intergalactique. Alors, le dernier élément que je voudrais décrire, j'ai pas très très bien suivi, il me reste 5 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, c'est le côté capacité qu'on a maintenant dans le millimétrique de voir à l'intérieur des galaxies. Donc, pour ça, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose d'élémentaire, c'est que vous avez à ma droite une galaxie morte et à ma gauche une galaxie vivante. Donc, vous voyez, la différence, c'est que ce qu'on appelle mort et vivant, on l'utilise vraiment entre nous, hein, c'est juste que cette galaxie forme des étoiles, celle-ci n'en forme plus. Donc celle-ci n'en forme plus depuis des milliards d'années, d'où sa couleur qui est plus jaune, celle-ci bleue, c'est-à-dire que les étoiles sont plus froides, plus petites. Et une des grandes questions qu'on se pose, c'est comment les galaxies ont pu avoir des formes aussi différentes et comment sont nées les galaxies elliptiques mortes. Or, ce sont les galaxies les plus massives de l'univers qui sont comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, le millimétrique, c'est l'outil idéal pour voir la formation des galaxies massives qui vont être dans les amas de galaxies. Or, si vous prenez un amas de galaxies dans l'univers proche, il est essentiellement constitué de galaxies comme ça et très peu de galaxies comme ça. Et donc, le millimétrique est l'outil idéal pour voir la naissance des galaxies elliptiques. Et quand on regarde les galaxies elliptiques, en fonction du temps, donc quand on les regarde dans l'univers de plus en plus lointain, ce dont on s'aperçoit, c'est que les galaxies... Alors, ce que vous voyez ici, c'est la taille, le rayon de demi-lumière. Donc, si vous prenez le centre et vous allez jusqu'à ce rayon-là, vous faites un cercle. À l'intérieur de ce cercle, vous avez la moitié de la quantité de lumière totale de la galaxie. Donc, le rayon de demi-lumière pour une galaxie elliptique, en fonction du décalage vers le rouge, diminue quand je vais dans l'univers lointain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les galaxies dans l'univers lointain étaient très différentes des galaxies dans l'univers d'aujourd'hui. Non seulement la proportion de galaxies elliptiques et spirales était différente, mais si vous regardez une galaxie elliptique à cette époque lointaine d'il y a 10 milliards d'années, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus ramassée sur elle-même, beaucoup plus compacte. Et c'est une des énigmes de l'astrophysique moderne que d'essayer de comprendre pourquoi, comment, avec quel processus, quel mécanisme physique a-t-on formé des étoiles de façon aussi concentrée ? Est-ce que c'est parce que le gaz s'est concentré et a donné naissance aux étoiles de façon très concentrée ? Ou bien est-ce que ce sont les étoiles qui étaient dans un disque et puis qui ont migré lors d'une fusion de deux galaxies vers le centre ? Alors on sait que techniquement c'est un peu difficile de faire migrer des étoiles parce qu'elles ne rayonnent... un gaz d'étoile c'est un gaz qui ne produit pas de lumière et donc c'est très difficile de leur faire perdre leur vitesse, leur énergie dynamique. Et donc on avait quand même l'intuition que ça devait être, la réponse devait être que les étoiles sont formées au centre, mais encore fallait-il le voir. Et donc on est passé, donc je vous ai dit tout à l'heure, télescope Hubble, 1500 galaxies, Herschel qui voit des centaines de galaxies avec des blobs, et maintenant on passe à ALMA, qui a la capacité de voir les galaxies avec une résolution angulaire très forte. Ici, ce que je montre ici, cette flèche ici, cette zone bleue ici, c'est la zone des galaxies qui forment leurs étoiles avec un taux de formation d'étoiles normal, puis plus on monte vers le haut, plus elles ont des taux de formation d'étoiles qui sont extraordinaires. Alors, voici une galaxie qui a un taux de formation d'étoiles normal. Elle est vue avec le télescope Hubble en rouge et en ultraviolet, qui est ici représenté en jaune, désolé, comme une belle galaxie spirale vue par la face. Et puis les contours ALMA, vous voyez, sont bien centrés sur l'ultraviolet là. Donc c'est là où se forment la plupart des étoiles. Donc là, il n'y a pas de désaccord particulier entre les deux. Maintenant, je vous montre une galaxie qui a une formation d'étoiles beaucoup plus élevée et qui est une galaxie en interaction. Et maintenant, je suis désolé, c'est en blanc cette fois. L'ultraviolet, dans le référentiel de la galaxie, est ici. Et ce qui est vu dans le millimétrique par ALMA, et donc qui correspond à l'infrarouge lointain dans le référentiel de la galaxie, est ici. Et vous voyez que les deux s'évitent. On a maintenant, ça c'est Hubble, ça c'est ALMA, on commence à voir où est située à l'intérieur des galaxies la poussière interstellaire. Et on voit que ALMA et l'ultraviolet s'évitent. Or, ça, c'est de la poussière chauffée par les étoiles massives et jeunes qui rayonnent dans l'ultraviolet. Et il n'y a aucun ultraviolet qui est là. Ça veut dire que tout l'ultraviolet a été absorbé. Donc si vous mettez maintenant la poussière un peu partout, la galaxie devient complètement noire. Mais si vous la mettez simplement à cet endroit-là, eh bien la galaxie est noire ici et ultraviolet, elle est transparente aux ultraviolets ici. Si vous comparez la quantité d'étoiles qui viennent naître et qu'on voit en ultraviolet à celle-ci, celle-ci est 100 fois plus élevée, parfois 500 fois plus élevée ici que là. Donc c'est vraiment là où la plupart des étoiles les plus massives naissent, qui est vue par ALMA. Voici un autre exemple. On voit ici l'ultraviolet, une galaxie en interaction. Et de nouveau, ALMA est complètement située à un endroit qui n'a rien à voir. À chaque fois, c'est comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ça prouve qu'avec ALMA, on voit vraiment à l'intérieur des galaxies la formation d'étoiles et on voit qu'elle est très compacte. Ça répond donc à notre question qui était de savoir est-ce qu'on est en train de former des galaxies elliptiques après avoir bouger les étoiles ou bien en ayant formé les étoiles avec un taux intense de façon très compacte, oui, ALMA montre que c'est très très compact. L'autre chose, c'est qu'avec Hubble, quand on cherchait maintenant l'origine des galaxies spirales comme ça, non plus les elliptiques mais les spirales, on s'est rendu compte que c'était devenu compliqué parce que les galaxies dans l'univers lointain avaient des formes beaucoup plus irrégulières avec des clumps de formation d'étoiles et qu'on voit dans l'ultraviolet et on a essayé de se demander comment expliquer le lien entre les deux. Il y a des tas de choses que Françoise vous a déjà racontées, mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'on s'est posé la question de savoir avec ALMA si, quand on regarde ces galaxies-là dans l'infrarouge lointain, dans le millimétrique, si on voyait ces petits blobs ici qui sont vus dans l'ultraviolet. Donc si je vous montre ici, par exemple, une galaxie qui est vue avec des blobs dans l'ultraviolet, qui sont ici, voilà, tac, 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 et bien vous voyez que ALMA, ce que voit ALMA, c'est là. Donc ça c'est les images ultraviolets, ici c'est la bande, c'est le visible de la galaxie, ici c'est l'ultraviolet, vous voyez qu'il y a 5 blobs ultraviolets, et ALMA est ici complètement indépendant. Donc ces blobs qu'on voit, qui sont des grumeaux de formation d'étoiles dans les galaxies, et qu'on pensait jouer un rôle majeur dans la formation des galaxies, ne semble pas émettre beaucoup d'émissions dans l'infrarouge et donc ne forme peut-être pas autant d'étoiles que ce qu'on pensait. Et donc, systématiquement, quand on regarde avec ALMA, ce qu'on voit, c'est ces petits points rouges, c'est de la formation d'étoiles très, 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 très concentrée et qui est à l'origine de la formation des galaxies elliptiques massives. En fait, si voici une animation ici qui vous montre que le rayon des galaxies spirales, les galaxies bleues qui forment les étoiles. Ici, c'est les galaxies elliptiques. Et si maintenant, ce que vous voyez au cours du temps ici, c'est que vous partez de ce point-là et vous descendez là, c'est qu'on suit au cours du temps la formation d'étoiles qui a lieu dans la région très concentrée avec ALMA. Et on voit que là, progressivement, la galaxie va avoir une image pour le télescope spatial Hubble qui sera de plus en plus compacte jusqu'au jour où elle arrêtera de former des étoiles et qu'elle deviendra elliptique. Donc on est en train de voir la naissance des bulbes et des galaxies elliptiques. Alors ça, c'est le dernier élément que je voulais vous dire. Donc, c'est qu'avec ALMA, on voit vraiment la forme des galaxies naître et on pense que les galaxies spirales, au contraire, eh bien, acquièrent leur grand disque lorsque la matière s'écoule avec des filaments intergalactiques et vient nourrir la galaxie et donner cette grande danse, ce moment angulaire qui va donner naissance au disque fin des galaxies spirales. Je voudrais juste conclure en vous rappelant que... mince, j'ai encore laissé un 2020. En 2021, le James Webb Space Telescope va être lancé. Ça va être probablement une petite révolution pour amener le télescope Hubble, avec les limites dont je vous ai parlé, qui ratait toutes ces galaxies-là, dans le domaine à la fois de la poussière d'étoiles et du décalage vers le rouge, puisqu'on va voir ce que vous avez ici, c'est des images qui montrent, par exemple, vous avez ici une image qu'avait fait le satellite Spitzer à 24 micromètres, donc de l'infrarouge chauffé par de la poussière, enfin de la poussière chauffée qui rayonne dans l'infrarouge. Et ce qu'on verra avec le James Webb Space Telescope, à la place de ce blob-là, ça sera ça. Donc vous voyez que maintenant, on va aller encore un cran plus loin avec le télescope spatial Hubble, et on pense qu'avec le télescope Hubble, on devrait voir ces galaxies massives en formation avec une très 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 grande efficacité, et donc comprendre un peu mieux comment sont nées les grandes structures, les galaxies massives dans l'univers, et tester nos modèles cosmologiques. L'autre objectif, bien sûr, c'est, dans le cadre de la réionisation de l'univers, comme le disait François tout à l'heure, c'est que ce qui a réionisé l'univers, ce qui a casser les atomes d'hydrogène dans l'espace intergalactique, c'est principalement les galaxies qui sont transparentes, parce que si elles sont complètement atténuées, la lumière ne peut pas sortir, c'est les petites galaxies qu'on voit dans l'ultraviolet. Et on se demande s'il y aura beaucoup de petites galaxies, à très petite masse, ou peu, ou pas. S'il y en a beaucoup, comme on l'attend dans notre modèle cosmologique avec la matière noire telle qu'elle est, ça validera notre modèle. S'il y a une chute brutale du nombre de petites galaxies qui est contrairement à ce qu'on attendrait dans notre modèle dit concordant avec de la matière noire classique, ça pourrait mettre en péril notre cosmologie. Donc l'étude de la réionisation et la recherche des premières galaxies, aux deux extrêmes, va jouer un rôle fondamental. Les petites galaxies qui font la réionisation, qui, en fonction de leur nombre, va nous dire quelque chose sur la nature de la matière noire, et puis les grosses galaxies qui sont un test de la gravité aux grandes échelles, des plus grandes structures en formation, qui va nous permettre de tester nos modèles de formation des grandes structures. Voilà, merci.